enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça, c'est lui second qui le dit. Mais il y a une autre version qui dit que celui qui s'approche de Dieu est dans son cœur la preuve évidente de son existence. Ce n'est plus pareil. Alléluia. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu ne crois plus, mais tu sais. C'est une certitude. Alléluia. Tu rentres dans un repos, dans une sérénité, une tranquillité, telle que personne ne peut perturber ta foi. Personne ne peut l'ébranler parce que tu sais. Tu sais qu'il est là. Alléluia. Et moi, ce matin, je sais qu'il est là. Et ça, c'est la révélation de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre la pensée que Dieu a communiquée depuis le début de cette année. Nous sommes en train de parler d'une année d'alliance qui nous fait rentrer dans notre destinée. Nous sommes en train de parler de l'alliance de notre destinée. Et depuis le mois de janvier, le début du mois de janvier, Dieu nous a enseigné sur plusieurs messages qui nous permettent de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Et le dimanche dernier, Dieu nous a parlé d'être, de devenir serviteur. Alléluia. Et que devenir serviteur était différent d'être pasteur, d'être évangéliste, apôtre, prophète, etc. Même si ces choses sont des ministères que nous exerçons pour le service envers Dieu, envers les hommes. Alléluia. Mais devenir serviteur de Dieu, en fait, revêtait un autre caractère, en fait, une autre connotation. C'était simplement revêtir un caractère, une mentalité. Alléluia. Et comme Dieu nous transporte de gloire en gloire, ce matin, Dieu veut nous amener à un niveau plus haut. Alléluia. La semaine dernière, le dimanche dernier, Dieu nous a dit que nous devons devenir des serviteurs. Ce matin, Dieu veut nous amener plus loin. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, verset 15. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 15. Dieu parle au peuple qu'il a dans cette assemblée ce matin. Et Dieu nous dit, dimanche dernier, je vous ai dit, devenez mes serviteurs. Mais aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteurs. Alléluia. Parce que je considère que durant toute la semaine, vous avez mis en application tout ce que je vous ai enseigné pour devenir serviteurs. Alléluia. Et comme vous n'avez pas perdu votre temps, alléluia, comme vous n'avez pas été les auditeurs oubliés, maintenant je reviens ce dimanche. Je vous dis, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Maintenant, je vous amène à un autre niveau. Alléluia. Maintenant, je vous amène dans une autre dimension. Alléluia. Désormais, je vous appellerai ami. Oh, alléluia. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur obéit. Le serviteur est esclave. Alléluia. Il est esclave de son maître. Il suit les instructions de son maître. Qu'il comprenne, qu'il ne comprenne pas, il est obéissant. Soumis. Alléluia. Et à cause de cela, il est agréable. Son maître peut l'utiliser. Son maître peut faire des miracles avec lui. Son maître peut se servir de lui. En fait, il travaille pour son maître. Alléluia. Il travaille pour Dieu. Alléluia. Voilà le serviteur. Et Dieu se manifeste au travers des serviteurs. Il fait des miracles, il y a des avantages, il y a des droits, il y a des choses qui sont attachées au Seigneur. Et ça, on l'a vu dimanche dernier. Alléluia. Gloire à Dieu pour la dimension des serviteurs. Mais Dieu veut nous amener ce matin encore plus loin. Dieu nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En d'autres termes, le serviteur n'a pas une relation particulière avec le maître. Le serviteur a une relation de serviteur à patron. Dieu est son patron. Lui, il est le serviteur. Et il est important que chaque enfant de Dieu, après avoir été sauvé, né de nouveau et devenu chrétien, passe par cette étape. Parce que l'étape des serviteurs nous permet d'apprendre les principes d'obéissance, de soumission à Dieu. Et Dieu nous utilise à ce niveau. C'est la dimension du disciple. C'est pourquoi il est écrit, tout disciple accompli sera comme qui? Donc le disciple est un serviteur. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'école de disciples, Dieu nous apprend à devenir serviteurs. Et lorsque nous avons acquis le caractère du serviteur, il n'y a plus de problème. En ce moment-là, Dieu nous qualifie à rentrer dans un autre niveau. Et c'est là qu'il nous amène maintenant dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 15, pour vous dire, oh, mes enfants, c'est une très bonne chose. Vous avez suivi l'école des disciples. Je vous ai appris des lois, des principes. Vous avez obéi. Vous m'avez montré votre capacité à être obéissant, à être soumis. Maintenant, je vous amène à un niveau plus haut. À partir de maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Je vais changer la nature de la relation que j'ai avec vous. Je ne veux plus que vous puissiez me regarder comme le patron qui donne les ordres, vous exécutez et ça s'arrête là. Je ne veux plus que vous puissiez être des gens qui travaillent pour moi. Alléluia. Mais je veux que vous puissiez devenir mes amis. Parce que devenir mon ami, ça voudrait dire qu'en fait, tu te rapproches de moi. Le serviteur n'est pas proche de son maître. La relation est différente. Et à l'époque où ce passage a été écrit par l'évangéliste Jean, on était dans un contexte où effectivement, il y avait des rois, il y avait des esclaves. Et les esclaves, ils avaient pour caractéristique de travailler pour le roi, d'obéir aux ordres du roi. Aller dans les champs, travailler dans les champs. En fait, les esclaves n'avaient pas un héritage. Ceux qui avaient un héritage, c'était les fils. Les esclaves obéissaient aux ordres du maître. Et ils faisaient tout ce que le maître demandait. Ils étaient obéissants. Les esclaves étaient dehors. Les esclaves, voyaient là, étaient dans la présence du maître, mais n'étaient pas à côté du maître. Quand vous allez dans un palais royal, vous rentrez dans la cour royale, vous êtes dans la présence royale. Dans le royaume, vous avez des privilèges, vous avez des bénédictions. Lorsque il y a guerre, vous êtes protégé en premier parce que vous êtes dans le palais royal. Donc vous bénéficiez de la sécurité comme on l'a vu dimanche dernier. Vous avez la sécurité, vous avez la protection. Et le roi traitera bien ses esclaves. Ça va de son intérêt, n'est-ce pas? À prendre soin de ses esclaves. Mais lorsqu'on devient ami, la dimension de relation change. Ce n'est plus la même chose. Quelle est cette nouvelle dimension de relation? On la trouve dans la suite de ce passage. Il dit ceci. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ça veut dire qu'en fait, au serviteur, il ne fait pas connaître tout ce qu'il a appris de son père. Au serviteur, il leur fait connaître les choses qui sont liées à leur service, qui sont attachées à leur ministère, afin qu'ils puissent accomplir la volonté du maître. Et lorsqu'ils sont obéissants, la gloire, la puissance de Dieu se manifeste à la dimension de leur obéissance par rapport à la dimension de la connaissance qu'ils ont de ce que le maître veut d'eux. Donc, ils accomplissent la volonté du maître. Or, la dimension d'ami est tout autre chose que la dimension de serviteur, en ce sens que l'ami n'accomplit pas la volonté du maître, mais l'ami tout ce que le père du maître a fait connaître au maître. Ça veut dire qu'en deux termes, l'ami rentre dans la famille du maître. Tout ce que le père du maître a dit au maître, le maître le révèle à l'ami. Ça veut dire que même l'ami ici prend carrément la dimension de relation d'un frère. Parce que pour partager ce que ton père t'a dit, tout ce que ton père t'a dit à un ami, ça veut dire que cet ami-là, ce n'est pas vraiment un ami, c'est vraiment un frère. Ça veut dire qu'il va rentrer dans les secrets de ta famille. Il va connaître qui est ton père. Il va connaître qui est ta mère. Il va connaître qui est ton frère, qui est ta sœur. D'où vous êtes issu? Quel est ton arbre généalogique? Qui était ton grand-père? Comment la famille a vécu? Quelles sont les épreuves par lesquelles la famille est passée? Quelles sont les difficultés que vous traversez? Quels sont les problèmes financiers que vous avez? Des secrets de la famille que même certaines personnes ne peuvent pas connaître, il va te les révéler parce que tu es son ami. Et il dit, je leur fais connaître tout ce que mon père m'a fait connaître. Et dans ce mot « faire connaître », lorsque je cherche derrière, il y a deux dimensions. La première dimension, la version Nouvelle Jérusalem dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Et la version grecque dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai vu de mon père. Et c'est pourquoi Jésus sur la terre, durant tout son ministère, a fonctionné dans ces deux dimensions. Première dimension, il ne faisait rien sans avoir entendu son père lui parler. C'est pourquoi il allait toujours avant lui de la prière. Deuxièmement, il le déclare, je ne fais rien si ce n'est ce que je vois mon Père faire. Ce que j'entends, ce que je vois dans la dimension céleste de mon Père, je les prends et je descends avec et je vais les révéler à ceux qui sont mes amis. Alléluia! Mais je ne le révèle pas au serviteur. C'est pourquoi le serviteur, lui, travaille pour le maître. Mes amis travaillent avec le maître. Le serviteur travaille pour Dieu. Et il accomplit les choses pour Dieu. Et gloire à Dieu parce qu'il fera des grandes choses. Puisqu'il obéit à la parole. Puisqu'il applique les principes que le maître lui montre. Il le dit d'ailleurs, que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ce que j'ai fait, tu seras capable de faire, et même encore des miracles plus grands. Mais l'ami ne travaille pas pour le maître. L'ami travaille avec le maître. L'ami ne travaille pas pour Dieu. L'ami travaille avec Dieu. Parce que la relation qu'il a avec Dieu est différente de la relation qu'il a avec le serviteur. Pourquoi? Parce que l'ami rentre dans le cœur de Dieu. Dans son intimité. Et il touche. L'ami déclare que tous les secrets, les mystères de Dieu sont cachés où? Dans son cœur. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, cive ta lance. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Aujourd'hui, il dit, je vous amène à la dimension d'amis. Et je veux faire de vous mes amis. Et ce verset, je ne vous appelle plus ami, parce que l'ami, serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que l'ami connaît tout ce que mon père m'a montré, tout ce que j'ai vu de mon père, tout ce que j'ai entendu. En fait, nous fait comprendre que la principale caractéristique d'un ami, ce n'est pas le service, c'est la révélation. Je le dis encore pour ceux qui prennent des notes. La principale caractéristique, le principal caractère d'un ami de Dieu, ce n'est pas le service, mais c'est la révélation. Celui qui est serviteur, avec ou sans révélation, il va travailler. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous rencontrez également beaucoup de serviteurs de Dieu. On va en parler. Mais quand vous voyez dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a très peu de personnes que Dieu a appelées amis. Je me souviens d'un seul dans l'Ancien Testament, c'est David. Il a dit, David était un homme selon mon cœur. Et puis dans le livre de Jean, la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle qu'il y a un seul qui a pu intégrer cette dimension. C'est qui? C'est l'évangéliste Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la dimension d'ami, c'est une dimension que tout le monde ne peut pas facilement atteindre. Là, on rentre dans la dimension supérieure. Là, Dieu commence à sélectionner. Parce que la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Quand on est serviteur, Dieu partage sa puissance avec nous. et on manifeste la puissance de Dieu, on peut faire des miracles, on peut guérir des malades, on peut tout faire, comme on l'a vu dimanche. On est serviteur de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Il a séparé la mer rouge en deux. Alléluia. Il a fait tomber la manne du ciel. Oh, il a parlé au rocher, l'eau est sortie. Alléluia. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Abraham était un serviteur de Dieu. Jacob était serviteur de Dieu. Et tous ces personnages, la Bible, ont fait de grandes choses avec Dieu. David aussi était serviteur de Dieu. Seulement, la différence avec David, c'est que Dieu va dire à David, tu es un homme selon mon cœur. En d'autres termes, avec Dieu, David avait une relation que les autres serviteurs de Dieu n'avaient pas avec Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, Dieu réunit les 12 disciples dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 15. Il leur dit, vous êtes mes serviteurs, mais mon désir, ce n'est pas que vous soyez mes serviteurs. Je veux faire de vous mes amis. C'est pourquoi je vous appelle amis, parce que je veux vous révéler ce que mon Père m'a révélé et tout ce que mon Père m'a révélé. Et alors, on voit l'évangéliste Matthieu qui reçoit la révélation de l'évangile et qui prêche l'évangile. Jésus lui dit, c'est très bien Matthieu, mais ce n'est pas encore ça. Et Marc arrive. Marc aussi reçoit la. Il raconte tout ce que Jésus a fait sur la terre, les miracles, etc. Jésus dit, c'est très bien, mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. Et Luc arrive. Luc dit, mais Seigneur, tu m'as montré la révélation, la guérison. Je vais montrer, manifester au monde entier que tu es un Dieu qui guérit. Tu es le Dieu, tu es Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Je me suis révélé à toi comme étant le Dieu qui guérit. Montre à mon peuple que je guéris. Mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. Et Pierre arrive. Pierre dit, tu es le Christ, le Seigneur. Il dit, oui, cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais ce n'est pas encore ça. Parce que ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis. Je t'ai révélé l'autorité spirituelle. Je t'ai révélé la puissance pour chasser les démons, pour vaincre les portes du séjour des morts. Mais ce n'est pas encore ça. Et les serviteurs sont passés. Tous les 12 sont passés. Et un 13e arrive. Il s'appelle Paul. Paul arrive, il reçoit la révélation de Dieu. La Bible dit que la dimension de la révélation que Paul a eue dans le domaine de sa parole de Dieu, dans le domaine du miraculé, aucun apôtre n'a eu ça. Mais Jésus dit, ce n'est pas encore ça. Alléluia. Et je vous invite dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Apocalypse chapitre 1. Après avoir exercé, avoir travaillé pour Dieu, tous ses serviteurs ont fait de grandes choses. Ils ont fait de grands miracles. Maintenant, Jésus est glorifié. Jésus est monté au ciel. Il s'en va. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit à Jésus, bon, j'ai vu comment les apôtres t'ont servi. J'ai vu comment les serviteurs ont travaillé pour nous. Maintenant, que tu as été glorifié au travers de tout ça, ce que je vais faire, je vais te révéler les choses qui doivent arriver. Souvenez-vous que lorsque Jésus était sur la terre, même lui-même, il ne connaissait pas encore les choses qui devaient arriver concernant la fin du monde. Et on lui pose la question, on lui dit, mais quand est-ce Jérusalem sera détruite? Quand est-ce il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre? Quand est-ce il y aura la famine? Quand est-ce tu reviendras, et quand elle sera la fin du monde? Jésus dit, moi je ne connais ni l'heure, ni le jour. Et personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Seul Dieu mon Père, qui est dans le ciel, connaît l'heure et le jour. Pendant que Jésus était sur la terre, il ne connaissait pas, il ne savait pas ce qui devait arriver à la fin du monde. Il a fallu qu'il termine sa mission sur la terre, et qu'il soit élevé à la droite de Dieu le Père. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. En ce moment, Dieu nous amène à l'Apocalypse et il dit maintenant à Jésus, il dit maintenant voici ce qui va arriver. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Dieu donne la révélation de l'Apocalypse à Jésus-Christ. Et il dit voici maintenant ce qui va arriver. Les choses que tu ne connaissais pas, quand tu es encore sur la terre, je te les fais connaître. Il faut Le Père fait connaître ces choses au Fils. Or, le Fils a dit aux 12 que je ne vous appelle plus amis, mais je vous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que l'ami, je lui ferai connaître tout ce que mon père me montrera. Et donc, son père lui montre les choses qui doivent arriver. Et donc, il lui dit, montre ces choses à tes serviteurs. Et la version qui traduit le mieux ce passage, c'est la version Darby. Dans l'origine grecque, on dit, montre ces choses à l'un de tes serviteurs. Parmi les 12. Alors Jésus descend sur la terre. Il regarde. Il regarde Pierre. Il dit non, ce n'est pas Pierre. Tu as fait de grandes choses, des miracles. Tu as connu la puissance, l'autorité pour chasser les démons. Mais ce n'est pas encore ça. Il regarde Matthieu, il dit ce n'est pas encore ça. Il regarde Paul, il dit c'est très bien Paul, mais ce n'est pas encore ça. Il regarde tout le monde, il dit ce n'est pas encore ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se tourne vers qui? Vers Jean. Et la Bible déclare révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à qui? Son serviteur Jean. Parmi les 12, parmi les 13 et parmi la multitude de serviteurs qui a sur la terre, Dieu choisit une seule personne. Qui c'est? Jean. Pourquoi? Parce que Jean était l'apôtre de l'amour. Les autres étaient les apôtres de puissance, de miracles, de prodiges et plein de choses. Mais Jean était l'apôtre de l'amour. Et la Bible nous montre que de tous les 12 disciples qu'il y avait sur la terre, Jean était le seul qui chaque fois venait se coucher aux pieds de Jésus et dormait sur ses jambes, sur sa poitrine, ne se préoccupant pas de tout ce que les autres faisaient, mais se souciant simplement du fait d'être dans la présence de Jésus et d'être dans son intimité quotidiennement afin d'écouter les secrets, les mystères de son cœur. Bien-aimé, en ce temps dernier, les gens que Dieu recherche, ce ne sont pas les gens qui font des miracles. Les gens que Dieu recherche, ce ne sont pas les gens qui font des prodiges. Parce que même le diable fait les miracles. Il a dit dans les derniers temps, il y en a qui diront, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Tout ce monde seront des serviteurs. Il y en a qui seront des serviteurs inutiles. Il y en a qui seront des serviteurs utiles à leur maître. Il y en a qui vont me servir avec de l'orgueil. Il y en a qui vont me servir pour se faire valoir. Il y en a qui vont me servir pour leur propre ventre parce qu'ils veulent faire de l'évangile un moyen de gagner leur vie. Il y en a qui vont se servir de mon nom pour dire que je sers Dieu simplement pour montrer qu'il a un grand nom, pour montrer que c'est un grand homme de Dieu. Mais ce n'est pas ce que moi je recherche. Et ils diront, Seigneur, Seigneur, on a fait ces choses en ton nom. On a fait ces choses pour toi. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Ça veut dire que je n'avais aucune relation avec vous. Je n'avais aucune intimité avec vous. Je n'avais aucune relation. Vous ne me connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas mon père. Mais vous travaillez seulement pour moi. Vous ne travaillez pas avec moi. Vous n'avez aucune relation d'amour. Même les gens pour qui vous priez, vous n'avez aucune relation d'amour pour eux. Si ces personnes étaient guéries, c'est parce que moi, Dieu, je voulais glorifier mon nom. Mais vous, dans votre cœur, vous ne connaissiez même pas ces personnes. Vous n'avez même aucune relation avec ces personnes. Vous ne connaissez pas ce qu'elles vivaient. Par contre, ce que vous désiriez, c'est de manifester mon onction pour que ces personnes tombent afin qu'on voit que vous êtes des grands hommes de Dieu. Vous vous serviez de ces hommes-là pour attester votre onction, pour attester votre ministère. Moi, je ne vous connais pas. Vous vous serviez de mon nom, de ma parole, pour vous faire un grand nom. Je ne vous connais pas. Vous n'aviez aucune relation avec moi. Alors, il se retourne vers Jean. Pourquoi? Parce que Jean, c'est le disciple de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Vous lisez l'évangile de Jean. Vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Vous lisez l'Apocalypse. C'est Jean qui a écrit ça. Et dans tout ce qu'il a écrit, vous voyez le message de l'amour de Christ. La révélation, la grandeur, la révélation de l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la puissance, mais l'amour. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Il a dit, quand vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents. Oh, quand vous ferez même des prodiges de miracles jusqu'à ouvrir le ciel. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un tonneau qui résonne, un tonneau vide qui résonne, une cymbale qui retentit. Or, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? L'amour. Or, la foi nous amène à faire quoi? Des miracles. L'espérance nous amène à quoi? À la confiance. L'amour nous amène à quoi? L'adoration. C'est pourquoi Jésus dit, avant de partir, il dit, ce que mon Père recherche, ce sont les vrais adorateurs. Il ne recherche plus les hommes de miracle. Il ne recherche plus les serviteurs. Il ne recherche plus les chantres. Il ne recherche plus les pasteurs. Il ne recherche plus les apôtres. Il ne recherche plus les prophètes. Il recherche maintenant des vrais adorateurs. Des gens qui ont la révélation du cœur de Dieu. Des gens qui ont l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que, en tant qu'ami, je vais vous faire connaître les mystères du cœur de Dieu. Je m'arrête sur un aspect très important. Quand Dieu nous dit, ici dans sa parole, qu'il désire nous faire connaître les choses qui nous concernent. Quand Jésus veut nous dire qu'à ses amis, il veut faire connaître les choses que son Père lui a montrées, les choses qu'il a entendues de son Père. Il veut parler à son peuple. Il veut lui dire, moi je désire vous faire connaître en tant qu'ami les mystères du royaume de mon Père. Et la Bible déclare, les choses cachées appartiennent à qui? À l'Éternel. Et les choses révélées appartiennent à qui? Aux hommes. Donc, aux amis, Jésus-Christ voudra révéler les mystères. Mais regardez ceci, il révèle l'Apocalypse à Jean. Jean était dans l'île de Patmos. La Bible déclare qu'il était en prison. Apocalypse chapitre 1. Il était en prison. Il est dans une situation difficile. Et Dieu donne à Jésus la plus grande révélation du monde, de son histoire. Et il lui demande de choisir parmi les 12 et parmi la multitude des serviteurs qu'il y a sur la terre, la personne à qui il doit révéler cette révélation-là. Jésus choisit le disciple de l'amour. Et il vient vers Jean à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que Jean était en train de traverser une épreuve. Et je vais vous expliquer une chose, bien aimé. Et là, je rentre dans le cœur de mon message en ce qui vous concerne. Il y aura beaucoup de serviteurs, il y aura beaucoup d'appelés, il y aura beaucoup de chrétiens. Et on prie qu'il y ait beaucoup de gens à l'église. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Voilà, je disais tout à l'heure, Seigneur, viens à moi, change-moi. Le plus important, ce que Dieu recherche avec nous, bien-aimés, c'est que dans l'épreuve, nous puissions montrer à Dieu que nous l'aimons. Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à Jean dans l'épreuve, en prison. Et quand on lit l'histoire de la parole de Dieu, toutes les personnes à qui Dieu s'est révélé, il s'est révélé à eux dans l'épreuve. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous venons à l'église, s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous, qu'il nous guérisse, qu'il nous délivre, qu'il nous accorde du travail, qu'il nous accorde des papiers, qu'il nous accorde un mari, qu'il nous accorde une femme. Et toutes ces choses, Dieu dit, c'est pas mauvais, c'est des bonnes choses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'épreuve, il envoie un test pour voir si réellement tout ce que vous demandez là, vous le demandez rien que pour votre propre intérêt ou vous le demandez parce que vous aimez Dieu. Et puis un jour, j'étais en train de prier. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je désire vraiment que tu me remplisses de ta puissance. Je veux, Seigneur, que tu m'accordes ton onction. Je veux que tu m'accordes la révélation de ta parole. Je m'apprêtais à aller prêcher. Et j'entends le Saint-Esprit qui parle dans mon cœur et qui me pose la question. Pourquoi veux-tu avoir l'onction? Pourquoi veux-tu avoir la puissance? Pourquoi veux-tu voir des miracles se produire quand tu prêches? Pourquoi? Et quand j'analyse au fond de moi, je me rends compte qu'en fait, finalement, c'est seulement parce que je veux qu'on sache que Dieu est avec moi. Je veux qu'on sache que je suis un serviteur de Dieu. Je veux qu'on sache que je suis appelé de Dieu. Et j'ai été honnête avec moi dans la prière entre mes quatre murs, je dis, en fait, c'est ça la réalité. Mais Dieu m'a dit, moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas que tu sois connu. Mon problème, ce n'est pas que tu sois vu. Mon problème, ce n'est pas que ton nom soit grand. Oh, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que mon nom doit être glorifié sur la terre, comme au ciel. Mon souci, ma préoccupation, c'est que mon règne vienne sur la terre. Que ma volonté soit accomplie sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, si tes désirs sont mes désirs, je te donnerai la puissance. Je te donnerai la gloire. Je te donnerai l'onction. Je te donnerai la révélation. J'ai déjà compris, Seigneur. Beaucoup d'entre nous demandons des choses à Dieu. Je veux la guérison. Je veux la délivrance. Je veux le miracle. Je veux la restauration. Je veux... Si Dieu te donne ça, aujourd'hui, après, tu fais quoi? Si tu réponds à cette question, tu sauras pourquoi Dieu t'exauce ou pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que si tu n'as pas de projet après la guérison, si tu n'as pas de projet après la bénédiction, si tu n'as pas de projet pour Dieu après ton miracle, en fait, ce que tu recherches, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ta propre gloire. Et qu'est-ce que la Bible dit? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres désirs. Et quand Dieu voit ça, il ne donne pas. Quand Dieu voit ça, il se retire. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Il ne partage sa gloire qu'avec ses amis. Alléluia. Et les choses cachées appartiennent aux amis. Les mystères appartiennent aux amis. Les secrets, on les dit aux amis. Et Dieu fonctionne comme ça, bien aimé. À partir de maintenant, si tu as toujours été chrétien, simple chrétien, monte un petit peu. Oh, passe au stade de serviteur. Va à l'école des disciples. Et si tu as été toujours serviteur toute ta vie, ce matin, Dieu te dit, passe à un niveau supérieur. Rends la dimension maintenant d'amis. Parce que j'ai de grandes choses à te montrer. Parce que tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui concerne ta destinée se trouve en moi. Avant même que tu n'existes sur la terre, je connaissais déjà ta vie. Je connaissais ta destinée, dit l'Éternel des armées. Était inscrit sur mon livre de vie tous les jours qui étaient destinés pour toi sur la terre. Et les choses que tu dois accomplir sur la terre, les projets que j'ai pour toi, de paix et de bonheur, je les ai inscrits dans mon livre, dit l'Éternel des armées. Je sais qu'un jour tu seras un grand homme. Je sais qu'un jour tu seras une grande femme. Je sais que tu auras du travail. Je sais que tu auras les papiers. Je sais que tu auras un mari. Je sais que tu auras une femme. Toutes ces choses, je les ai inscrites dans mon livre pour ta destinée. Mais pour que tu connaisses ces choses, pour que tu puisses rentrer dans ces secrets, il faut que tu changes de statut. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu seras serviteur, le serviteur ne connaît pas les secrets. Alléluia. Le serviteur se contente de ce qui est révélé, car les choses révélées appartiennent aux hommes. Mais les choses cachées appartiennent à Dieu et à ses amis. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? Les choses cachées appartiennent à Dieu et à ses amis. Je vais terminer ce message avec une conclusion très simple. Si tu es malade ce matin, sache une chose. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu, c'était un jeune homme qui était né aveugle. Et puis les gens se posaient la question, ils ont dit à Jésus, mais pourquoi ce jeune est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que... Il y a eu un problème de famille héréditaire. Est-ce que ce sont des démons qui sont cachés derrière? Jésus leur a dit, en fait, ça n'a rien à voir avec les parents. Ça n'a rien à voir avec les démons. Mais cet enfant est dans cet état afin que le nom du Seigneur soit glorifié. La maladie que tu portes aujourd'hui, c'est afin que le nom du Seigneur soit glorifié. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu n'as pas d'emploi aujourd'hui. Cette situation est un instrument de la gloire de Dieu. Tu as des problèmes financiers aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Ce problème, cette épreuve que tu traverses est une occasion pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et tous les serviteurs de Dieu qui ont vécu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ont connu cette dimension. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé à ses serviteurs en fonction de chaque situation. À ceux qui étaient malades, Dieu s'est révélé à eux comme étant Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, qui veut dire le Dieu qui guérit. Tu ne pourras jamais avoir la révélation de Jéhovah Rapha si tu n'es pas malade. Et tous ceux qui sont malades et qui ont la confiance, la foi en l'Éternel, recevront la révélation de Jéhovah Rapha, que ceux qui ne sont pas malades ne pourront jamais recevoir. Donc ta maladie est une occasion de manifester la gloire de Dieu. La maladie que tu portes est un instrument de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut se révéler à toi comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors quitte le stade de serviteur, rentre dans la dimension d'ami pour comprendre les mystères du royaume de Dieu au sujet de la guérison et cherche à connaître l'Éternel. La Bible déclare, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Viendra pour vous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Maintenant, Dieu vient à toi et il veut se révéler à toi comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et si tu acceptes de rentrer dans cette dimension d'ami, il va se révéler à toi. Et quand il va se révéler à toi, tu connaîtras le Dieu qui guérit et la maladie qui est dans ton corps disparaîtra. Non seulement tu seras guéri, mais tu ne tomberas plus jamais malade. Parce que tu ne seras pas guéri par la puissance de Dieu. Tu seras guéri par la gloire de Dieu. Ceux qui sont guéris par la puissance de Dieu, ils sont guéris. Mais ceux qui sont touchés par la gloire de Dieu ne sont pas guéris, mais sont en bonne santé. C'est pourquoi il déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. La volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que tu sois guéri, mais que tu sois en bonne santé. Oh, les serviteurs sont guéris, mais les amis sont en bonne santé. Alléluia! Les serviteurs sont guéris, mais les amis sont en bonne santé. Et lorsque tu es ami de Jésus, oh, que tu es malade, ne t'inquiète pas, c'est une occasion pour toi de chercher l'Éternel dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de sa parole, afin qu'il se révèle à toi comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et si dans l'église, tu as des combats, tu as des combats perpétuels, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Quand il s'agit de trouver du travail, c'est des combats. Il faut trouver une femme, c'est tout un combat. Tu comprends, mais c'est pas possible. La vie est faite que de combats. Comme une soeur qui chantait, disait, Seigneur, ma vie est une vie de combat. On dit, non, soeur, ne confesse pas ça. Parce que dans la Bible, Dieu s'est révélé à ses serviteurs comme étant Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Donc les situations de combat que tu vis dans ton quotidien, ne regarde pas ça comme étant un sujet de tristesse, mais comprends que derrière les épreuves que tu traverses, derrière les combats que tu mènes, se cache Jéhovah Nissi. Alléluia. Jéhovah Nissi est caché derrière. Oh, cherche un petit peu. Je me laisse trouver par celui qui me cherche, si seulement celui-ci me cherche de tout son cœur. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annonce caché que tu ne connais pas. Il parle à qui? Il parle aux amis. Cherche Dieu par le jeûne, par la prière, par la parole, par l'adoration, par les supplications. Et Dieu se révélera à toi comme étant Jéhovah Nissi. Et tu connaîtras des victoires dans ta vie, là où tu n'arrives pas à vaincre le péché. Tu auras la victoire sur le péché. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 14, comme étant Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Tu as l'impression que le compte bancaire est vide. Chaque fois, à joindre les fins du mois, à boucler les fins du mois. Et tu as l'impression tout le temps, tu as des problèmes d'argent. Découvert, endettement, difficultés financières. Les gens qui te doivent de l'argent dehors ont du mal à. Tu cries à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi je suis dépouillé? Pourquoi je suis... Et tu te retrouves comme Job. Tu commences à dire, oh Seigneur, comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Non. La volonté de Dieu, Ce que Dieu veut dans cette situation pour toi, c'est que tu connaisses comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors il va te conduire dans des épreuves, comme il a conduit Jean dans l'île de Patmos en prison, pour que tu puisses expérimenter des choses qui vont te permettre de connaître le Dieu que tu sers dans la dimension de révélation qu'il veut te faire connaître, dans laquelle il veut t'amener. Alors il va te révéler qu'il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la provision, qui apporte l'or, qui apporte l'argent. Et la Bible déclare que les trésors des nations posséderont les portes de ta demeure. Et il ne te manquera jamais de rien. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon la richesse de sa gloire avec immensité en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu restes persévérant, tu t'accroches à cette espérance, tu découvriras Jéhovah Jireh. Et je pourrais citer tous les noms de Dieu qui montrent les différentes facettes de la nature de Dieu, l'identité de Dieu. Je vais juste citer un dernier que vous connaissez certainement. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Quand tu es tourmenté, tu ne dors pas bien, tu as des... Chaque jour, il te manque confiance. Il te manque confiance. Tu es dans les angoisses, dans les frayeurs. Il te manque la sécurité, tu es paniqué. Ta vie est troublée. Il te manque la paix. Il te manque le repos intérieur. Sache une chose, Dieu veut comme étant Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. C'est l'occasion pour toi de changer Dieu dans cette dimension et de devenir ami de Dieu pour découvrir qu'il est le Dieu de paix. Alléluia. Ainsi, tu seras capable de le révéler à d'autres personnes. Dire, je connais Dieu. Je ne crois plus qu'il existe, mais j'ai dans mon cœur la preuve évidente de son existence. Je sais qu'il est le Dieu de paix. Alors, je peux me confier en lui. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, jamais déçus. Et tu vas développer en toi un caractère de confiance, d'assurance, d'espérance et de foi que beaucoup dans l'Église n'ont jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traversé tes difficultés. Ils n'ont pas connu les troubles que tu as connus. Même s'ils ont connu des troubles, mais ils ne les ont pas connus dans la dimension où tu les as connus. Et toi, parce que tu es resté fidèle à Dieu, tu es resté persévérante, tu as été obéissante, tu as cherché à connaître Dieu dans la relation d'amour, tu as cherché à connaître Dieu en restant adoratrice, en restant quelqu'un qui aime l'Éternel dans la persévérance, alors Dieu s'est révélé à toi comme il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos. Il t'a montré qu'il est le Dieu de paix. Et ce n'est qu'en ce moment que tu peux être un véritable témoin de Christ. Parce que tu es son ami. Et tu peux montrer aux gens qu'il est le Dieu de paix. Avec des preuves à l'appui. Voilà, il est le Dieu de paix. Voici ce qu'il m'a fait. Il a fait ceci pour moi. Il a fait cela pour moi. Il est le Dieu de paix. Et tu peux consoler ceux qui sont dans la tristesse. Tu peux consoler ceux qui sont opprimés. Tu peux relever les faibles. Tu peux les encourager dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître le Dieu de paix ce matin, qui s'accroche à l'Éternel maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître le Dieu qui guérit ce matin? Jéhovah Rapha. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître le Jéhovah Jireh? C'est l'occasion pour vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître le Jéhovah Nissi pour emporter des victoires? Alléluia. Quittez l'étape de serviteur. Rentrez dans la dimension d'ami. Dieu veut tisser une nouvelle dimension de relation avec vous. Dieu veut changer votre statut. Dieu veut changer le caractère de la relation que vous avez avec lui. Il veut vous amener plus loin. Parce que là-bas, il y a des choses qu'il a réservées pour vous. Que seul le Père connaît et que seuls les amis peuvent connaître. Les mystères cachés de tous les temps. Alléluia. Alors venez avec nous. Venez avec lui dans sa présence. Entrez dans sa présence. Adorez l'Éternel. Simplement. Cherchez, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que sa dehors. Devenir ami de Jésus, c'est connaître Jésus, c'est connaître Dieu, c'est connaître le Père, son identité, sa nature, son caractère. Devenir ami de Jésus-Christ, c'est connaître la vie. Lazare était un ami de Jésus. Quand Jésus a appris que Lazare était mort, il n'a pas pu supporter cela. Pourquoi? Parce que Lazare était l'ami de Jésus. Et Jésus est venu. Il a dit à Marthe et à Marie, ne vous inquiétez pas, il vivra. Il vivra. Et elles ont dit, oui, nous savons qu'il vivra au jour de la résurrection. Il dit, non, pas seulement quand je reviendrai, mais même maintenant, sur cette terre, il vivra. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les amis de Jésus ne connaissent pas la mort. Les amis de Jésus connaissent la vie. Et la vie en abondance. Les amis de Jésus ne connaissent pas l'échec. Les amis de Jésus ne connaissent pas le trouble. Les amis de Jésus ne connaissent pas la maladie. Les amis de Jésus ne connaissent pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ses amis ne sont plus sur la terre. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Afin que lorsque je reviendrai, je vous prenne avec moi. Pour que là où je suis, vous mes amis, vous y soyez aussi. Les amis de Jésus sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Les amis de Jésus nagent dans la gloire de Dieu. Les amis de Jésus triomphent. Ils n'ont plus de combat à mener. C'est Dieu qui combat pour eux. Les amis de Jésus sont dans le repos. Ils ne sont plus dans le combat. Les amis de Jésus ne sont plus dans les difficultés. Ils sont dans l'abondance. Si tu connais des difficultés aujourd'hui, sache une chose. Tu n'es pas encore ami de Jésus. Tu es encore serviteur. Mais c'est déjà une bonne chose. Bénis l'Éternel pour cette dimension. Parce que tu n'es plus chrétien. Tu es monté, tu es devenu serviteur. Mais fais encore un pas de plus. Va plus loin. Deviens ami. Deviens ami. Couvre nos têtes et prions. Partage tes fardeaux et avec qui tu veux partager tes préoccupations, tes projets. Ce matin, nous te prions de nous aider à rentrer dans la dimension d'amitié. Nous voulons devenir tes amis. Nous voulons savoir ce que fait le Père. Nous voulons connaître la volonté du Père. Nous voulons connaître les projets du Père pour nos vies et pour le royaume de Dieu sur la terre. Merci Seigneur. C'est pour cela que nous prions Seigneur ce matin que tu répands ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5 déclare l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est que par ton amour que nous pouvons avoir une relation d'amitié profonde avec toi, Seigneur. Aide-nous à rentrer dans cette dimension parce que c'est la plus ultime, c'est la plus importante. Nous voulons être des amis de Dieu. Et comme tu as été ami avec David, tu as été ami avec Jean, nous voulons nous aussi en ce siècle présent avoir la révélation de ton amitié. Merci Seigneur pour l'église Sif Talence. Parce que dans cette église, on t'a connu comme étant le Dieu qui pourvoit. On t'a connu comme étant le Dieu qui guérit. On a connu ta puissance, on a connu ces choses. On a connu l'onction. Même si nous allons encore connaître ces choses, mais ce n'est plus à ce niveau. Attends Seigneur. Tu veux que nous puissions entrer dans un niveau supérieur maintenant, Seigneur. Tu veux former une génération d'hommes et de femmes qui t'aiment d'un amour profond et sincère et qui développent avec toi une relation d'amitié et non d'intérêt. D'amitié et non d'intérêt. Tu ne cherches plus des gens qui viennent à l'église seulement pour chercher la guérison, après ils repartent. Seulement pour chercher la délivrance, après ils repartent. Seulement pour chercher le mari, après ils repartent. Seulement pour chercher la femme, après ils repartent. Chercher le travail, après avoir trouvé le travail, ils repartent. Quand ils ont des problèmes de papier, ils viennent. On prie pour eux. Ils ont les papiers, ils repartent. Je ne veux plus ça, Seigneur. Tu veux maintenant des gens, Seigneur, qui t'aiment réellement et qui s'attachent à toi dans une relation profonde d'amour, d'être afin de faire d'eux de véritables amis. Un ami sur qui tu peux compter quand tu as des projets sur la terre pour la fin de ton royaume, il sera présent pour répondre. Je suis là, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Quand tu diras, je veux faire telle œuvre sur la terre, j'ai besoin d'un partenaire financier, il dira, je suis là, je suis ton ami. Tu sais que tu peux compter sur moi, Seigneur. Tu sais que tu peux compter sur moi, Seigneur. Je suis là. Envoie-moi, utilise-moi, parce que je suis ton ami. Tu cherches les gens, Seigneur, qui partagent tes préoccupations, qui partagent tes projets, qui partagent tes désirs pour l'humanité, pour le monde entier, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Cherche cela. Est-ce qu'il y en a quelqu'un dans cette salle, Seigneur, qui répond à l'appel? Élevons nos voix et prions ensemble. Prions ensemble. Merci, Seigneur. Fais de moi ton ami, Seigneur. Je veux devenir ton ami. Je veux devenir ton ami, Seigneur. Je veux vraiment arriver à une dimension où tu peux compter sur moi, Seigneur. À chaque instant, je vais arriver au niveau où tu peux dire, Sosten est un homme selon mon cœur. Je vais arriver à un niveau où, lorsque Dieu le Père réunit le ciel entier pour prendre une décision et dire à qui devons-nous confier ce projet, que le ciel entier à l'unisson dise, confiez-le à Sosten. Parce que c'est un véritable ami, un homme de confiance, sur qui on peut compter. On sait qu'il nous restera fidèle et loyal, qu'il ne nous décevra jamais. Comme tu l'as fait avec Jean dans l'île de Patmos, afin de venir confier, mais confier les dossiers les plus importants de la terre, de l'humanité, de la destinée, de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Oh, ce message est profond, Seigneur. Aide-moi-même à l'intégrer dans ma vie. Quelqu'un se reconnaît comme ami de Jésus-Christ de Nazareth.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.